Papa, non, en 2024, créer un site web n'est plus une galère, c'est même devenu ultra simple, et notamment grâce à des solutions comme Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Vous allez voir, tout y est. Vous pouvez vendre vos produits physiques ou services en un temps record. Vous avez des centaines de templates de sites web canon dans tous les domaines. Vous pouvez créer vos campagnes email. Vous pouvez même vendre votre propre formation en ligne. Donc, si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer avec un outil à la fois performant et très simple d'utilisation, eh ben, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, à l'occasion de ce partenariat, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. Alors, n'attendez plus et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Hello, hello mes chers amis, ici Pauline Aignot et vous êtes sur Le Gratin. Comme à chaque fois avec le podcast, mon objectif est de vous faire découvrir ou redécouvrir une personnalité remarquable, une personnalité extraordinaire, mais aussi ses moments de doute, ses grandes décisions, ses réflexions, sa philosophie, afin de vous faire bénéficier de son expérience et de vous aider à devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le gratin Nadège Winter. Si l'épisode vous plaît d'ailleurs et que vous trouvez le parcours de Nadège inspirant, alors n'hésitez pas à lui dire directement sur ses réseaux, que je vous mets directement dans les notes de l'épisode. Ancienne directrice de la communication du Palais de Tokyo, à la belle époque si je puis dire, et du concept store Colette, Nadège Winter est, selon les mots du magazine féminin Elle, une véritable papesse de la hype. Alors vous allez me dire, ok Pauline, super, une nana qui arrive à sentir l'air du temps, génial. Non, des tendances, Nadège ne les prédit pas. Elle les fait. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'elle travaille encore aujourd'hui avec de nombreuses marques comme Cartier ou Hermès ou encore Calvin Klein pour les aider dans leur communication. Dans cet épisode, on a naturellement parlé de créativité et de comment la cultiver, mais aussi de capacité à convaincre, de doute, d'expatriation, de reconversion, de storytelling, d'intuition ou encore de comment toujours, toujours se renouveler. Une conversation inspirante qui, je l'espère, vous fera réfléchir. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nadège Winter. Bonjour Nadège, bienvenue sur Le Gratin.
Merci, bonjour Pauline.
Ça me fait plaisir de vous avoir en plus en live de New York comme ça, c'est sympa, ça change.
Ouais, avec un petit 8h30 du matin pour moi, mais...
Bah vous êtes fraîche comme la rose, Nadège. Nadège, si ça vous va, on discutait un tout petit peu avant de commencer pour les auditeurs, voilà, je voulais vous le dire. Et vous m'avez dit pourquoi vous êtes partie à New York. Et je trouvais que c'était super chouette de commencer comme ça, parce que finalement, ces grands changements de vie, c'est un peu ça aussi, je pense, qui plaît à l'audience du gratin, qui très souvent sont des personnes qui se posent pas mal de questions, qui sont assez curieux. Et je vous ai demandé, je vous repose la question du coup, pourquoi est-ce que vous êtes partie à New York? Pourquoi est-ce que vous avez décidé, alors que vous aviez fait toute votre carrière en France, enfin elle est très internationale hein, votre carrière, mais elle était basée majoritairement en France, pourquoi est-ce que vous avez fait ce grand saut?
Donc comme je vous le disais en fait, c'est vrai que déjà New York c'est un grand, ça a toujours été un rêve et j'ai toujours eu la sensation quand je venais à New York que mon cœur y battait à la vitesse de cette ville, plus qu'à la vitesse de Paris en fait. Et donc, quand j'étais à Paris, consultante, j'ai toujours fait des allers-retours et j'ai toujours cherché un peu mollement, mais à trouver des clients à New York. Et voilà, bon, ça se faisait pas, mais c'était vraiment mon fantasme. Et New York, en fait, est arrivé vraiment, là, pour le coup, je l'ai pas cherché. C'est vraiment quelqu'un que je connais bien, qui m'a proposé un jour que j'étais à New York en mission pour un de mes clients. Je la vois et elle me propose ce job que j'ai accepté, mais vraiment en 5 minutes au bord d'une table, quoi. Et là, en fait, évidemment, ça a été genre, oh, mon cœur est battu à toute vitesse et je me suis dit, non, mais ça y est, quoi. Genre, mon rêve se réalise.
Enfin.
Donc, ça a été, en fait, quelques mois de réflexion, de peur et puis de réflexion parce qu'en fait, j'ai une vie à Paris, un mari, une petite fille, des beaux enfants. Toute une vie, quoi, toute une histoire. Et en fait, le choix, il a été énorme parce que le choix, ça a été de se dire, je repars un peu à zéro parce qu'en fait, entre guillemets, j'accepte un job énorme dans une entreprise, dans une boîte américaine qui est Calvin Klein. Alors que moi, ça fait 12 ans que j'étais consultante. Donc, ça veut dire que je dois professionnellement passer du consulting à une entreprise, quoi, être salariée dans une entreprise américaine.
En plus.
Avec une langue que je parle, mais je suis pas non plus née aux États-Unis, donc voilà. Et puis faire ce saut aussi avec ma fille sous le bras Et mon mari qui reste à Paris parce qu'il a son business, il est entrepreneur et donc il fera des allers-retours et aussi se séparer de mes beaux-enfants, enfin de toute ma famille, mes amis, enfin voilà. Donc c'est un choix comme on fait quand on doit partir ailleurs. Mais là en plus, sachant que je pars un peu pleine de challenges dans les bras, mais je crois qu'en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand New York frappe à la porte, bah on est obligé de l'ouvrir la porte et que là j'ai pris conscience de la notion du, en fait, pas du courage, mais de se dire que, en fait, voilà, pour avancer dans la vie et évoluer, il fallait oser et il fallait un peu dépasser ses peurs, parce qu'une fois qu'on les dépasse, on grandit et j'avais besoin de ça et j'avais besoin d'apprendre encore. Et c'est pas que professionnel, je pense que c'est aussi un travail personnel de femme aussi, de se dire. Même le fait de me retrouver un peu seule, sans mon mari au quotidien, c'est aussi se redire, mais qui je suis, est-ce que je peux, mais des choses, mais du quotidien.
Ouais, mais ça pose plein de questions, c'est
voilà,
clair.
C'est récupérer une carte, un numéro de sécurité sociale, la banque, faire son quotidien seul dans un pays, une ville. Alors, c'est l'Amérique, c'est New York, évidemment, on connaît très bien, mais il y avait beaucoup de challenges et je crois que j'avais besoin de sortir un peu de la fameuse zone de confort. Et j'ai appris énorme dans le process de la peur et du dépassement de la peur jusqu'au saut de l'ange et être concrètement dans l'autre pays et s'apercevoir qu'en 24 heures, j'avais l'impression d'être chez moi et que en 24 heures, même dans l'entreprise, chez Calvin Klein, j'avais l'impression d'avoir été dans un contexte d'entreprise toute ma vie à manager des équipes. Et d'un seul coup, effectivement, on regarde derrière soi, on se dit, mais pourquoi j'ai eu si peur au ventre pendant 6 mois? Heureusement que j'ai dit oui, quoi. Donc, voilà. C'était un peu long pour vous raconter pourquoi je suis venue.
Ah non, non, mais vous savez, moi, j'aime bien un peu de longueur, donc ça me fait plaisir. Non, mais c'est drôle parce que je pense que c'est un challenge, effectivement. C'est New York, donc on se dit c'est balisé. Mais en même temps, c'est une ville où tout le monde est anonyme, c'est immense, c'est un autre pays. Et puis, comme vous disiez, vous êtes toute seule. Enfin, c'est un tel changement de vie que je peux imaginer que ça faisait peur. Et du coup, vous avez l'air de dire que ça s'est hyper bien passé et que vous avez appris plein de choses sur vous. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous dans cette période?
Ah là là, mais je pense que j'ai pris confiance encore, en fait, sur... Je pense que vraiment, j'ai fait tout un travail, je pense, toute ma vie sur cette prise de confiance, cette conscience de la confiance, etc. Alors que j'ai un parcours qui, je pense, fait preuve à chaque fois de pas de prise de risque, mais...
Si, d'audace, énormément, voilà. Ouais. On se dirait, c'est bien une personne qui a confiance, c'est Nadège Winter, quoi.
Voilà, et c'est vrai que... Et pourtant, je pense que j'ai pris peut-être tout le temps, en fait... des risques d'un parce que j'ai mes tripes et mon intuition qui prédomine chez moi et donc j'avance en m'écoutant beaucoup, en écoutant mon ventre, et parce que je pense qu'en fait à chaque fois c'est une façon pour moi de me rassurer, de me rendre compte que finalement j'ai une force intérieure, que enfin pas que moi en fait, qu'on a la capacité vraiment de se surprendre et de réussir et de faire beaucoup de choses en osant. Donc en fait, je crois que ça m'a redonné en fait cette confiance et cette prise de conscience que on avait un potentiel énorme, que je pouvais effectivement alors en plus professionnellement basculer du consulting, de l'indépendance totale corporate, et finalement il y avait pas d'enjeu enfin plus que ça, quoi. Quand on est construit avec un cerveau plus ou moins bien en place, on comprend les enjeux du management, de la responsabilité, de la hiérarchie, des objectifs d'un gros groupe, enfin voilà, et du coup ça devient un jeu. Et en fait je crois que j'ai pris confiance et je pense que j'ai intégré l'idée aussi que finalement, fallait être un peu plus léger. Les choses n'étaient pas si graves que ça, et que, alors c'est encore une fois, c'est un boulot de tous les jours, mais c'est se rendre compte que finalement, c'est peut-être un jeu, savoir en fait s'adapter comme un caméléon, de profiter et de jouir de ce que on va découvrir, et pas s'en faire des montagnes, parce qu'en fait, se faire des montagnes, c'est s'arrêter et c'est s'empêcher de vivre des expériences nouvelles, quoi. Mais bon,
c'est facile à dire qu'à faire, toujours.
Ouais, depuis 20 ans, hein, donc c'est ce chemin-là qui m'amène un peu à à comprendre un peu tout ça, mais ouais, voilà.
C'est hyper intéressant et je vous remercie pour ces partages parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent et moi-même hein, qui sommes dans ce cas en fait de parfois se mettre un peu des barrières alors que il suffit de franchir le cap et que finalement ça se passe bien et qu'on peut avoir peut-être un peu plus espoir dans la vie quoi tout simplement. C'est d'ailleurs une idée que j'ai l'impression de vous partager parce que quand j'ai fait mes petites recherches sur vous, je fais pas mal de recherches, j'ai vu que vous aviez dit dans un article, alors je me rappelle pas dans quel magazine c'était, mais que globalement, la vie vous avait pas mal porté, et je le dis au niveau positif, c'est-à-dire que vous aviez vraiment su saisir des opportunités qui se présentaient à vous et qui avaient finalement un peu presque un... pas un destin, mais on va dire une espèce de, et sans rentrer dans des détails métaphysiques, mais presque voilà une méthode, Nadège Winter, où enfin par la force des choses, vous en faites une rencontre, vous discutez, et en fait il y a une idée qui arrive, et là vous rentrez sur un projet. Est-ce que vous pourriez m'en parler peut-être aussi avec des exemples, un exemple le plus parlant dans ce domaine?
Je pense, alors une méthode, j'aimerais bien la connaître, mais en fait je me suis d'ailleurs tant un peu interrogée. Parce que on m'a quelquefois questionné vu que j'ai ce parcours atypique en fait, et je pense que vous en parlez aussi souvent dans le gratin, mais qui correspond peut-être à une réalité en fait d'aujourd'hui et des carrières entre guillemets, je sais pas si on peut employer ce mot aujourd'hui, mais la verticalité en fait chez moi elle existe pas. C'est sûr que en fait c'est encore une fois je pense que j'ai construit vraiment mon histoire sur de l'intuition, sur un ressenti vraiment très très fort de, à des moments de me dire je suis plus à ma place, je sens qu'il faut que je bouge. Alors donc peu importe finalement ce que je suis en train d'écrire, parce que non, je suis pas en train de m'installer pendant 20 ans dans une société, non, je suis pas en train d'essayer d'obtenir, de passer de tel poste à tel poste d'une façon verticale, mais en fait c'est plutôt l'enrichissement que j'ai au quotidien qui m'habite et qui me guide en fait. Ça, je l'ai toujours beaucoup écouté.
Et je suis désolée de vous interrompre, Nadège, mais ça, enfin, c'est quand même déjà sacrément courageux. On parlait de courage au début, enfin, quitter quelque chose qui se passe bien, ouais, ou inconscient à la rigueur, mais en tout cas, vous écoutez votre instinct et avant, entre guillemets, que les choses se ternissent, vous savez passer à autre chose pour vous. Est-ce que vous pourriez me parler d'une fois où ça serait arrivé? Mais surtout, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comment vous avez pris la décision. Parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui sont dans ce cas de figure, qui se disent, tout se passe bien sur le papier, la boîte, elle est géniale, j'adore ce que je fais, mais je sens que, voilà, il faut que je passe à autre chose. Et peu de gens le font de franchir ce cap.
Alors, je pense que il y a une forme d'inconscience, il y a une forme, mais vraiment, je pense que ça dépend des caractères et c'est en fait entre la raison et le cœur, et je pense que j'ai une partie. Alors, encore une fois, alors, on n'est pas aussi binaire, aussi clair. Enfin, c'est vrai que je suis quelqu'un de très anxieux aussi, qui me pose beaucoup de questions, etc. Mais en même temps, j'ai ce ventre qui me parle beaucoup. Et donc, je pense que vraiment, c'est ce qui prédomine et c'est ce qui fait que, il y a un moment donné, je sens que ça va pas et j'avance. Alors, je sais qu'au fond de moi, il y a une sorte de chose inconsciente qui me dit que je vais bouger. Mais après, effectivement, c'est soit le hasard, le heureux hasard de rencontres, de discussions au même moment qui s'opèrent avec des gens et d'un seul coup quelque chose s'enclenche, ou c'est moi qui suis vraiment proactive et qui commence un peu à regarder à droite, à gauche, à sortir des espaces où mon cœur repalpite de nouveau et puis je mets des choses en œuvre concrètement pour rencontrer les bonnes personnes, déclencher des histoires, etc. Et donc, pour donner des exemples concrets, il y a eu le premier passage en fait. Le premier passage, c'est finalement, j'ai fait des études de droit pour rassurer mes parents. Je savais au fond, depuis toute petite, que j'avais envie de plutôt dans des domaines artistiques, créatifs. Alors, quand j'étais petite, les souvenirs, c'est entre eux, je me voyais un peu dans le domaine de la mode, styliste ou le marketing, alors que c'est des notions que je connaissais pas bien, mais voilà. Ou alors sauver la planète, m'engager dans des œuvres de charité. Enfin voilà, j'étais dans ces deux trucs. Voilà, mes parents étaient complètement angoissés à l'idée que je fasse des études d'art, que j'arrivais même pas à identifier. Je pense qu'en fait, quand on a 15 ans, enfin voilà, 17 ans, on fait pas trop. Et donc voilà, effectivement, j'étais incapable de leur dire oui, je vais faire histoire de l'art ou beaux-arts ou je sais pas trop quoi. Avec en plus ce syndrome d'imposteur où j'étais non mais de toute façon je ne suis pas une artiste donc on va pas se lancer là-dedans. Donc j'ai fait du droit, mais tellement sans passion, contre cœur. Évidemment, ça fonctionnait, donc j'ai fait ma maîtrise. Et puis après la maîtrise, je me suis dit bon alors comment raccrocher les wagons avec ce qui finalement m'habite, quoi, la musique, le monde artistique et tout. Donc je commençais à m'inscrire en troisième cycle de propriété littéraire artistique, de double cursus histoire de l'art et tout. Et puis mais alors d'un seul coup, je sais même plus ce qui s'est passé, mais j'ai eu un flash. Je me suis dit mais jamais. Je peux pas rester enfermée dans un bureau avec le code civil, le truc, le machin, c'est pas possible, quoi. Et là, j'ai eu le courage de dire à mes parents, stop. En fait, soyez rassurés, je continue ma route, je sais où je vais, mais j'arrête ces études de droit, etc. Et en fait, j'avais envoyé mon CV à plein de maisons de disques, des maisons de production de vidéoclips, voilà, des domaines qui m'intéressaient, quoi. Et j'ai eu, des offres de stage. Et j'ai commencé comme ça, en fait, j'ai bondi, donc j'ai arrêté le droit et j'ai commencé des stages dans des domaines que je ne connaissais pas, en étant attachée de presse dans un petit label de musique, productrice, enfin stagiaire dans une boîte de prod de clips, et puis un stage qui s'est transformé en un premier job et qui était dans une maison de disques de label Virgin. Donc c'était une maison de disques de IAM, Néné Cherry, tout ça. Enfin, bon, bref, c'est l'époque.
En plus, Virgin à la belle époque, hein, quand même.
Tout à fait, et Daft Punk et tout. Enfin, bon, bref. Là. Et donc, je démarre, en fait, voilà, en stage dans cette maison de disques, au commercial, vraiment. Et ça se passe bien. Et du coup, on me propose un job, en fait, qui est créé, en fait, à ce moment-là, pour moi, au marketing. Donc, évidemment, je ne sais même pas ce que c'est, en fait. Et donc, j'ai appris comme ça. J'ai eu la chance, donc là vraiment c'est la chance d'avoir ce stage, d'être avec entourée de personnes qui peut-être ont décelé chez moi quelque chose d'intéressant. La boss de label, c'était une femme, c'était Laurence Touitou, c'est elle en fait qui m'a donné, en fait tendu la première perche, quoi. Et donc je suis restée 5 ans et j'ai appris un métier et du marketing dans la musique. Et voilà, donc il y a eu cette première rupture qui a été les études, et d'un seul coup, je décide de basculer dans la musique. Et au bout de 5 ans, dans la maison de disques, je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Enfin, on me demandait beaucoup au marketing d'être dans des chiffres, dans des choses très rationnelles. Ça commençait vraiment, l'artistique, était pas forcément ce qu'on recherchait le plus sur des label managers, etc. Et ça me manquait. Et donc, en fait, j'ai vraiment fait une bascule. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis dit qu'il fallait que je me rapproche de l'image, et donc je suis partie et j'ai recontacté les maisons de production que je connaissais, donc Partisan, Midi Minuit à l'époque, c'était la grosse maison de production française de Michel Gondry, donc IAM, Daft Punk, etc. Je lui dis bah génial, je vais aller travailler dans l'image dans une boîte de prod. Donc j'ai eu la chance encore une fois qu'en face de moi on me dise bah ok viens, mais je dois réapprendre quand même un métier. Et mais j'y vais, et au bout de quelques temps, je m'aperçois que c'est rebelote, je dois mettre des chiffres dans des cases, et puis c'est pas évident en fait. Il y avait quand même ce truc où je dois être une sorte de productrice sans avoir l'expérience, donc une sorte de simuler plus ou moins que je sais quoi.
Mais c'est quand même fou quand on y pense, je suis désolée de vous interrompre, c'est pas fou qu'ils vous aient fait confiance, parce que je pense que, la preuve est, vous aviez non seulement le potentiel, mais en plus ça a bien marché. Mais c'est fou qu'ils aient eu cet instinct de vous confier quand même des responsabilités aussi importantes, enfin, que ce soit pour Virgin, si j'ai bien compris, vous aviez quand même la responsabilité du label à l'international, quoi. Donc c'était quand même.
J'avais pas cette responsabilité, il y avait un directeur au-dessus de moi. Il y avait vraiment cette notion de mentoring aussi, enfin, je pense de donner la place à quelqu'un qui est en train d'apprendre et qui, a priori, avait pour eux les capacités et quelque chose à donner effectivement à l'entreprise. Et donc, mais c'est vrai que c'était vraiment de la pâte à modeler. Enfin, c'est partir de pas du tout la formation d'études pour ça. Et peut-être que, je sais pas, peut-être que cette époque-là, il y avait une capacité aussi pour l'entreprise à être surtout dans le monde artistique, peut-être, parce que finalement dans ces milieux il n'y a pas d'études royales, en fait. Laurence Touitou, qui était donc la directrice du label, avait fait des études d'architecture, elle travaillait dans la télé, enfin je pense que c'est des milieux quand même qui permettent aussi, dès qu'on sent chez quelqu'un une force de travail, une sorte d'agilité, de rapidité de réflexion, une sensibilité, etc., à ce moment-là, en fait, je crois qu'on laisse la chance, la possibilité à cette personnalité de s'exprimer. Donc, je pense que effectivement, dans un contexte monde des assurances, de la banque, enfin où il faut
le CV fait plus foi, alors que
là en fait on fait appel au vraiment aux tripes, à la personnalité des gens et à la sensibilité. Et après effectivement il faut c'est bingo quand on associe ça à une capacité de fabriquer de la stratégie, d'avoir un objectif business, voilà. Mais c'est pour ça, je pense qu'il y a cette possibilité dans ces milieux. Et la prod, je pense que c'est, encore une fois, c'est aussi la rencontre avec des chefs d'entreprise quand même très malins. Lui, à ce moment-là, c'est se dire que je viens du monde de la musique, qui sont finalement les clients des boîtes de prod de vidéo, et que du coup, il y a un accès aux maisons de disques pour aller présenter les réals, etc. Donc, il y a tout ce truc qui se combine et tout ça fait du sens. Mais c'est vrai que c'est fou de se dire que voilà, je savais pas ce que c'était que produire un clip et que je me retrouvais. Alors, j'étais pas en première ligne. J'avais en plus ma meilleure amie qui était aussi là, etc. Donc, il y avait tout un contexte qui faisait que c'était plutôt, ça pouvait bien se passer. Mais pour moi, il y avait quand même des moments où c'était dur de se dire, je repars, réapprendre, à pas forcément maîtriser, être sur une autoroute, voilà, tranquille. Il faut quand même que je réapprenne, quoi. Et ben, au bout d'un an, donc au bout d'un an dans la maison de production, je m'aperçois que bon, finalement, l'artistique est pas forcément là.
Ouais, en tout cas, au rendez-vous.
Et à ce moment-là, donc, je rechance. J'entends parler de l'ouverture prochaine du Centre d'art Le Palais de Tokyo. Donc, qui était en préparation d'ouverture. On en parlait très, très peu, je pense, à l'époque. J'avais vu passer un article. Et surtout, je vois passer une annonce dans Libé qui recherche la direction de communication du nouveau centre d'art contemporain, le Palais de Tokyo, avec un profil qui est évidemment, mais alors pas du tout le mien, quoi. Institution idéale, tout ça, bon, bref.
Oui, parce que c'est quand même... c'est maintenant, on connaît, donc à l'époque, c'était naissant, mais c'est quand même une institution. Enfin, je veux dire, là, on est carrément dans le public, quoi.
La communication qui était derrière, enfin, il y avait tout un truc. Et vraiment, le descriptif, c'était pas moi. Mais j'avais lu un article qui parlait du projet et la façon dont ils en parlaient, je me disais, mais non, mais c'est là où je veux travailler. C'est un centre d'art qui va être transdisciplinaire, la mode, la musique, l'art contemporain, etc. Une sorte de PS1 qui était le lieu emblématique de New York à l'époque. Et donc, voilà. Et mais aucun doute, je me dis, c'est pour moi, c'est mon histoire. Et donc, première fois de ma vie, je postule, j'envoie mon CV. Je crois qu'ils en ont reçu 400, enfin bon, bref. Donc, j'ai fait partie du lot des finalistes. Donc, c'est la première fois aussi, plein d'entretiens. Je crois qu'il y avait une grosse agence de pub qui était partenaire, enfin qui les aidait, etc. Donc, je suis pas à 4-5 entretiens et j'étais en finale. On était deux. Et je crois qu'à la fin, donc, j'avais moi qui était complètement atypique. Et une autre personne qui, pour le coup, avait vraiment le profil...
rentrer dans le cadre, quoi.
Voilà, avec des qui avait fait des decks en PowerPoint et tout, machin, parce que c'était... Enfin, bon, bref. Et pour nous choisir, je m'en rappelle qu'il nous avait demandé de développer une stratégie d'ouverture, un document, en fait, voilà, du palais. Et moi, j'ai mis, en fait, toutes mes tripes, quoi, et puis toutes mes intuitions. Et puis, encore une fois... Je vais encore reparler de chance, mais il s'avère que les deux directeurs du centre, qui sont Jérôme Sens et Nicolas Bourriaud, avaient une vision très disruptive aussi du système. Ils voulaient monter une équipe un peu fraîche, avec des esprits pas forcément issus du monde de l'art contemporain pur, mais voilà, avoir une capacité d'ouverture. Et moi, j'arrivais avec une culture de la musique, de la street culture aussi, du skate, enfin plein de trucs, etc. Et pour moi, c'était vital que ça soit présent au Palais de Tokyo. Et donc, ça a marché. Et je suis devenue directrice de communication du Palais de Tokyo. Alors, au bolot, je n'ai jamais fait ça de ma vie.
Incroyable, quand même.
Voilà, et donc à la fois gérer le mécénat avec un des directeurs et la
les événements incroyables quand même qu'il y avait aussi.
Ouais.
Ça, c'était quand même une. Enfin, je veux dire, ça a été une. Les événements du Palais de Tokyo, c'était quand même, une référence, je veux dire, dans le monde de la culture pour être assez justement, ce que vous dites, disruptif, complètement innovant, ouais. Hyper créatif.
Tout donc, à fait. Non, c'était le lieu à l'époque, donc c'est la préhistoire, hein, mais c'était le lieu vraiment où On se disait, voilà, à Paris, c'était une époque en plus où Paris bougeait beaucoup, en fait. Il y avait vraiment, ça devenait un vrai bouillon culturel, en fait. Il se passait beaucoup de choses à Paris. Le Palais de Tokyo était donc vraiment aussi la symbolique de cette renaissance, de cette modernité, effectivement. Donc, l'art contemporain va croiser la musique, la mode, la fête, la nuit. Enfin, on voulait monter un club dans le Palais de Tokyo. Enfin, il y avait plein de choses. Donc, c'était hyper excitant. Et donc, l'équipe, de toute façon, qui avait été montée, alors le Palais était une institution, et c'est une institution semi-public, semi-privé, donc on dépendait beaucoup du ministère de la Communication et de la Culture et des fonds privés. Donc moi, j'ai appris à jongler aussi d'un seul coup dans un univers, voilà. Et non, c'était incroyable.
J'avais une question à ce propos, je ne sais pas si c'est pertinent, vous allez me dire, mais du coup, visiblement, peut-être que vous n'êtes pas une artiste, je ne sais pas, mais en tout cas, vous êtes quelqu'un d'a priori très créatif. Et être créatif, c'est bien, mais ce n'est pas toujours simple de faire accepter ses idées. Et là, avec le Palais de Tokyo, et puis on pourra en reparler aussi après avec Colette, et même là maintenant que vous travaillez chez Calvin Klein, finalement, ce n'est pas si évident de les faire accepter ses idées, surtout quand il y a un cadre. Avec le Palais de Tokyo, ben, vous l'avez dit à l'instant, hein, en plus, il y avait ce côté semi-public qui fait que je peux imaginer qu'il y avait des sacrées contraintes et des personnes parfois en face qui ne devaient pas trop aimer le disruptif. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette expérience, peut-être au travers d'un cas où ça vous est arrivé, d'être face à un blocage et de voir comment est-ce qu'on peut faire quand on est dans une situation comme ça pour réussir à convaincre de finalement de faire un peu un acte de foi aussi, parce que le créatif, souvent, il a une intuition, il faut qu'il la fasse accepter, mais c'est pas évident justement parce que c'est pas forcément sur des chiffres que ça va se jouer. C'est pas facile comme question, mais je vous pose ça parce que moi-même, ça m'arrive assez souvent de devoir convaincre des personnes et j'ai pas d'éléments autres que mon intuition et je trouverais ça hyper intéressant d'avoir votre retour là-dessus.
Alors, c'est marrant parce qu'évidemment, j'arrive pas là à trouver un exemple concret du process, en fait, et puis pouvoir me mettre en l'état de... Concrètement, en général, de toute façon, quand j'ai une intuition, effectivement, et une vision, donc j'ai appris avec le temps à la formuler et à trouver les outils et à mettre en place une sorte de présentation qui utilise le langage de gens que je vais avoir en face de moi, plus ou moins comprendre, en fait, que il y a une bonne idée, mais il y a aussi derrière un potentiel business ou etc. Qui existe.
Oui, une réflexion stratégique un peu. Quoi.
Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui une belle idée, elle suffit pas. Il faut effectivement qu'elle résonne d'un point de vue business, même si c'est pas forcément l'objectif premier et c'est un objectif à moyen ou long terme. Mais en fait, il faut quand même que la façon dont on va le présenter, ça passe aussi quand même par cet objectif-là final. Et que l'investissement qui va être mis dans la mise en place de cette idée, en fait, soit rémunéré, entre guillemets, à un moment donné, soit rémunéré par une audience, par financièrement ou quoi que ce soit. Donc ça, je l'ai appris aussi avec le temps. Alors après, je suis un peu un pitbull, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment une idée, je ne fais pas. Et du coup, il y a eu l'exemple de 20 Magazine, en fait, que j'ai lancé avant de partir à New York. Donc, j'avais eu vraiment cette intuition d'un seul coup, il y a 6 ans, peut-être, à force de parler avec les clients, de me rendre compte qu'il y avait vraiment sujet sur la Gen Z, sur la nouvelle génération, et tout le monde qui était en questionnement constant de « mais que font-ils, que mangent-ils, que veulent-ils, etc. » Et moi, j'adore aussi, en plus, j'ai toujours travaillé sur des projets de mise en avant du talent, de la relève, etc. Et là, je me dis « mais il faudrait développer un projet, une sorte de plateforme digitale ou 360 degrés, mais qui puisse en fait donner la parole à cette génération plutôt que de s'interroger pendant des siècles sur ce qu'ils veulent et faire parler des experts de 40 ans sur cette génération, autant aller à la source et les voir. Et donc, j'ai développé un deck avec ma vision et du coup... Alors moi, je suis pas une marketeuse entre guillemets. Hein. Je suis plutôt une créative communicante, donc j'ai pas forcément tous les outils ni le langage parfait, mais j'ai monté quand même un deck de plusieurs slides et j'ai commencé à frapper à des portes, grosse agence de communication à Paris, gros groupe média, etc. Et puis j'ai eu la chance, encore une fois, sûrement à un moment donné, de rencontrer une personne qui est devenue mon associée. Delphine de Cancode, qui dirigeait l'agence Étoile Rouge. Et on s'était vu, alors, On s'était envoyé, je lui avais envoyé un email un jour parce qu'on m'avait dit, il faut que tu la rencontres, vous êtes pareil, vous avez des trucs à faire, etc. Et je lui avais renvoyé un email, je voudrais juste qu'on boive un café, qu'on se rencontre. Et elle m'avait donc répondu immédiatement, elle me dit, mais j'adorerais, etc. Et donc, on se voit, et au bout des 20 minutes de discussion ou de la demi-heure, avant de partir, je me lève et je dis, ah, au fait, j'ai un projet. Je vous en parle comme ça, voilà. Et là, elle me dit, mais j'adore, je veux en être, quoi. Et en fait, ça s'est fait comme ça. En fait, on a continué la discussion ensemble avec elle, son expertise de chef d'entreprise, d'agence, de communication. On a repondu un deck et puis on a développé en fait une sorte de business model. On a ensemble cherché des associés, des partenaires pour mettre de l'argent qu'on n'a pas trouvé, mais on a lancé l'aventure et voilà. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais c'est... Enfin, en tout cas, quand on a une intuition forte, faut pas lâcher, mais il faut pas lâcher, quoi. Enfin, moi, je pense qu'il y a vraiment ce sujet. Aujourd'hui, encore, là, à New York, je suis en train d'essayer de monter un projet de charité, enfin, caritatif. J'avais déjà eu l'idée il y a 2 ans, je l'avais laissé tomber, là, ça remontait parce que je suis à New York. Bah, je suis dessus, je frappe aux portes, je lâche pas, quand je sens qu'il y a quelqu'un qui va être aligné avec ma pensée, j'y vais et je pense que là, j'ai dû envoyer mon deck et parler à 54 personnes, quoi. Et je suis en train de parler avec quelqu'un qui adore le projet et qui veut m'accompagner et qui est une personne, voilà, qui a résonance très forte à New York, à la tête d'un gros média, etc. Et donc, je me dis, voilà, peut-être que ça ne fera pas le jour, mais j'ai cette détermination, cette conviction et je lâche pas, quoi.
Donc, vous n'avez pas trouvé la personne où vous ne lâchez pas, quoi.
Ouais.
c'est beau, quoi. Enfin, franchement, c'est assez riche de voir que finalement, on peut, avec une idée... Si on s'accroche et qu'on va frapper à X centaines de portes, ben on peut rendre son projet réel, parce que parfois on peut pas faire les choses tout seul, hein. Et je pense que c'est un beau message d'espoir pour beaucoup de gens. J'aimerais parler, si ça vous va, Nadège, de Colette, parce que quand même, c'est là aussi un monument. Comment vous arrivez chez Colette?
Alors, donc ça, pareil, c'était au bout de 2 ans au Palais de Tokyo. Je commençais à me dire que, en fait, les choses n'allaient pas assez vite pour moi. Parce que j'étais dans une institution, encore une fois, semi-publique et privée, avec beaucoup de contraintes pour avancer, en fait, ça a pas la rapidité, évidemment, et l'agilité d'une entreprise privée. Peut-être que j'avais fait aussi le plus beau moment, le plus beau morceau pour moi, en tout cas, du palais, en tout cas, vraiment me concernant moi, c'était l'ouverture, de préparer l'ouverture, de faire l'ouverture, donc d'avoir ces 2 ans. Donc peut-être que j'ai ce côté un peu enfant gâté, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand mon jouet ne me satisfait plus, bon, bah, je passe à autre chose. Donc j'étais dans je sentais en fond de moi, ça y est, ça commence, il faut que je cherche, je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire, donc... Je commençais à parler rebelote avec des maisons de disques sur des projets pour entrer en tant que directrice artistique image, donc un nouveau métier à l'intérieur des maisons de disques, etc. Mais bon, je me disais non, retourner en arrière, je sais pas. Bon, bref. Et à ce moment-là, Sarah Andelman, qui est donc l'acheteuse et la cofondatrice de Colette, que je connaissais un peu, on s'était parlé plusieurs fois. Enfin voilà, on s'appréciait. Mais on se connaissait pas plus que ça. Et elle m'appelle et elle me dit, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je cherche, en fait, son attaché de presse de l'époque, Victoire de Taillac, partait au bout de 5 ans. Donc, Colette, le magasin, avait 5 ans à ce moment-là. Et elle cherchait une remplaçante, elle cherchait une nouvelle attachée de presse. Et je dis, mais moi, je suis pas attachée de presse, en fait. Mais je lui dis, mais alors, par contre, Colette, évidemment, j'ai des étoiles dans les yeux. Et je lui dis, mais je rêverais de développer une sorte de rôle de communication plus large, parce que je pense qu'il y a tellement de choses à raconter, etc. Et en fait, la chance, c'est d'être face à quelqu'un qui développe un business dans une structure plutôt familiale, très petite, qui est une entrepreneuse, qui, en fait, elle aussi écoute, mais beaucoup, ses guts, ses tripes. Et en fait, on s'est parlé. J'ai rencontré Colette, la maman qui était la cofondatrice. L'entretien, il a duré 10 minutes. Et en gros, elle m'a fait confiance. Et en fait, ce que je lui ai raconté, qui venait encore de mes tripes, en lui disant, en fait, moi, ce que j'ai envie, c'est quand je vois Colette, c'est un magazine, je vois la couve, c'est la vitrine, à l'intérieur, c'est des pages avec toutes les rubriques, et je pense qu'il faut développer plein d'idées de communication pour qu'on accompagne, en fait, ce que tu fais en tant qu'acheteuse, programmatrice du magasin, mais pour développer l'aura, le mindset, la philosophie de Colette au-delà de sa fonction de magasin. Enfin, j'avais vraiment ce truc, je me dis, faut raconter des histoires, quoi. Et c'est pas que envoyer la paire de Nike de Godas à des journalistes pour faire du shopping et faire des sorties dans la presse. C'est aussi, Colette, c'est bien plus puissant que ça. C'est monter des événements, faire des fêtes dans le monde,
les en faire une marque, quoi.
Voilà. Et donc c'était vraiment, je voulais, c'était vraiment me dire, il y a un espace, mais une autoroute créative en termes de communication, au-delà du talent d'acheteuse de Sarah et de directrice artistique, c'était vraiment me dire, voilà, on peut inventer plein de choses. Et donc, ça s'est fait comme ça. Et en fait, je suis restée 7 ou 8 ans à fabriquer, en fait, ce rôle de direction de communication, entre guillemets, qui, par rapport à un rôle de direction de communication dans un gros groupe LVMH, n'a aucune résonance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de budget, c'est voilà.
Ouais, c'est de la débrouille, mais avec une notoriété pourtant énorme. Donc c'est ça.
Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai une clé qui ouvre toutes les portes, hein, la clé Colette, et puis en face de ça, bah des idées. J'allais voir, en gros, c'était, j'ai une idée, je vais voir Sarah, je dis, tiens, tu voudrais pas qu'on fasse des fêtes avec des cours de danse, des trucs, on ferait ça tous les mois, machin. Et puis, il me dit, bah, ouais, okay, cool. Et donc là, la machine se met en route et c'est trouver les moyens, trouver l'argent pour le faire. Concrètement, là, ça a été aller voir Nike, qui devient sponsor d'un événement régulier et ça génère, c'était les Colette Dance Class à l'époque, ça a généré... évidemment, et de la presse, et de la désirabilité, et les gens en parlent encore aujourd'hui, enfin, je sais qu'on rigole, etc., mais voilà, c'est, d'un seul coup, ouais, c'est vraiment ce rôle de storyteller, de communicante.
C'est une question qui me passionne, moi, le storytelling, et de toute façon, général, le fait de raconter des histoires, et du coup, je sais pas si c'est indiscret, hein, tu me dis, mais c'était quoi l'histoire que tu as voulu raconter avec Sarah chez Colette, pour Colette, quand tu es arrivée ou au fil des années? Est-ce que tu pourrais nous dire, parce que je pense que parfois on parle de concepts, tu vois, comme le storytelling, le marketing, mais pour les gens, ça reste assez flou. Du coup, c'est quoi une histoire? C'est quoi une bonne histoire?
Bah, encore une fois, je pense que ce que j'ai vu, moi, dans Colette, c'était pas un magasin. C'était déjà, c'est à part de là, c'est que pour moi c'est une boîte, enfin une sorte de voilà, de réceptacle de créative, d'inspiration, de pour les gens, en fait. Il y avait les gens venaient chez Colette, des fois ils n'achetaient rien, ils regardaient,
c'est presque un musée, quoi, enfin pas un musée parce que c'est plus vivant, mais c'était plus un centre d'art, quoi.
Ouais, tu vois, tu feuillettes les magazines, tu regardes, tu sens les tendances, etc. Donc c'était une sorte de, déjà pour moi, voilà, c'était je pense que je l'ai sorti de sa fonction, le magasin, en me disant, voilà, c'est un magazine, c'est donc on va le feuilleter. Et puis j'étais tellement en admiration aussi, je pense, du travail de Colette, de Sarah, qui avait vraiment cette idée et qu'elle faisait de façon naturelle et qui de toute façon existait de facto. C'était c'est à Paris, mais en fait il y a une résonance internationale. Donc, comment faire aussi pour que continuer de créer du désir et finalement qu'il y ait de l'achat et des gens qui viennent du monde entier chez Colette, quand Colette est juste rue Saint-Honoré, puisque Colette refusait de s'installer ailleurs. On a monté des pop-up stores, etc., mais il n'y avait qu'un endroit. Et donc, pour moi, ça passe par des histoires de communication. Et du coup, très sincèrement, il n'y a pas eu de stratégie. C'était vraiment tout le temps. Enfin, limite, si je me réveille la nuit, j'ai un flash. Mais vraiment, hein, c'est et qui est nourri par l'air du temps, qui est nourri parce que je bouffe tous les jours d'inspiration. Mais ça a été donc ces soirées, ces Colette Dance Class, ça a été le magazine Le Colette d'un seul coup, parce que alors là j'étais plutôt face à une problématique, parce que Colette, il y a 300 000 produits tous les jours qui arrivent, une incapacité d'anticipation, parce que c'était Colette et c'était Sarah aussi, elle achetait, elle faisait son travail d'acheteuse, mais nous à la com on était au courant d'un dixième des trucs, ou alors elle arrivait, elle disait, bah voilà, pour la saison prochaine il y aura ça 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 ça, mais des trucs qui arrivaient tout le temps. Et en fait je me disais, mais il faut qu'on rationalise, parce qu'en fait déjà, soit on va saturer les journalistes de nos infos, on va rater des moments importants, etc. Et donc, j'ai essayé de structurer. D'un seul coup, je me dis, mais si on montait un magazine un trimestriel dans lequel on arriverait déjà nous à nous forcer à récupérer de l'information et distribuer aux journalistes pour qu'elles aient un peu d'anticipation sur ce qui arrive. Mais ce magazine, en fait, c'était pas juste un accumulation de communiqués de presse, je le voyais comme un vrai magazine. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, avec Sarah, on a développé, on a fait une régie, on a acheté, on est allé voir des marques pour prendre des pages de
pub. Ouais, c'est hyper malin.
Ce truc. Et en fait, on a chaque fois, chaque numéro, on allait chercher un graphiste, un directeur artistique qui faisait la mise en page. Donc, c'est devenu une petite pièce un peu collector, en fait, de graphisme. Loïc Préjean a travaillé aussi sur de l'écriture. Avec moi, j'écrivais aussi. Enfin bon, bref, mais il y avait une patte. Et le magazine est devenu une sorte de petit rendez-vous presque à collectionner dans sa...
Ouais, c'est ça.
Dans sa,
ouais, dans c'est devenu un produit presque ouais, de Colette, quoi. C'est ça qui est génial.
Et donc, voilà, il y avait la fonction, là. Il y avait l'outil de com. Et il y avait aussi, en fait, toujours... En fait, je suis chez Colette, je suis pas chez Walmart ou voilà, il faut que l'outil il résonne avec l'état d'esprit de Colette quoi. Donc c'était ça tout le temps en fait, c'était encore une fois, c'est une idée, une intuition, un contexte de business quand même tout le temps en fait et je crois que c'est ça que j'aime en fait, c'est marier la créativité et la fonction, l'utilité en fait et les idées qui fonctionnent, je crois. C'est celle-là, c'est celle qui d'un seul coup réunissent vraiment les deux le combo opérationnel et efficacité quoi. Et voilà, et là c'est face à un besoin, à un vide ou à un manque d'outils d'un seul coup qu'on a développé ça. Et à l'époque, on a développé la newsletter aussi parce que le digital était quand même à l'état zéro. Sarah a développé le site, moi j'ai développé la newsletter. Et voilà. Et donc oui, il y a eu tous ces outils qui partent d'un besoin peut-être. Et qui d'un seul coup trouve une correspondance créative qui résonne aussi avec l'identité de la marque, quoi, l'ADN de la marque.
Oui, un alignement. Et dans ce genre de cas, tu es resté assez longtemps, quand même 7-8 ans, ce que tu disais précédemment. Il y a une pression, je trouve quand même, enfin moi je m'imaginais qu'il y a une pression sur le renouvellement, sur le fait de devoir se renouveler, quoi, parce que c'est le lieu cool par excellence.
Ouais.
Et du coup, tu te dis, comment tu fais pour continuer à surpasser ce qui a été fait avant? C'est hyper dur. Est-ce que ça a été pour toi une pression, justement, au niveau de la communication?
Non, sincèrement, non, parce que je pense que c'est... J'étais portée par Sarah, qui, elle-même, ne cessait de se réinventer. Alors, le magasin, c'est pas réinventé 1000%, mais en fait il y avait de la nouveauté, de l'actualité, le monde créatif et de produits bouge aussi en même temps, donc voilà, c'est une sorte de cercle vertueux où les maisons, les marques évoluent, Sarah d'un seul coup a des nouveaux coups de cœur et donc des nouvelles tendances qui arrivent, etc. Et donc après je pense qu'en fait moi, comme il y avait une sorte d'ouverture et de capacité à penser à 360, c'est se dire que d'un seul coup, il y a un format sonore, un format vidéo, un format événementiel. Donc, c'est se réinventer. Je crois que même à l'époque, j'avais eu l'idée de monter un télé-shopping à l'intérieur du magasin. Donc, on avait développé, encore une fois, le digital, on en était au tout début, mais j'avais détourné les télé-shoppings de TF1.
De grand-mère, quoi.
Voilà, un télé-shopping de Colette avec, alors à l'époque, j'avais appelé Daphné Burki, qui était encore toute jeune, Thomas Lélu, j'avais monté une équipe où elle, donc voilà, c'était mes acteurs qui présentaient les produits et tout ça. Et l'idée, c'était voilà, on va driver vers le e-com, vers le e-commerce avec cette vidéo. Donc, bref, donc tu vois, il y avait une capacité quand même de renouvellement. Mais bon, moi, c'est vrai qu'au bout de 7-8 ans, déjà dans ma vie, j'étais en grand changement. Il y a eu un divorce. Et je pense que la semaine du divorce, il y a eu ma lettre de démission sur la table de Sarah. Parce que je crois que j'avais un besoin de changer beaucoup de choses. Alors, moi aussi, grande faux folle. Enfin, Colette, j'ai aussi, à un moment donné, enfin, très vite, en fait, je suis assez boulimique d'activité. Et en fait, j'écrivais des chroniques dans la presse, je faisais des chroniques à la télé à un moment donné, je commençais à être DJ. Et puis, j'ai eu ce truc où j'étais aussi hyper sensible au monde à la sustainability, en fait, dans la mode. Et en fait, j'ai commencé, mais vraiment, donc ça remonte à il y a 15 ans, à commencer à m'intéresser. Je voyais ce qui se passait aux États-Unis et tout ça. Et je me disais, mais il faut qu'on fasse des choses, c'est pas possible. Et donc, j'ai développé un blog à l'époque, Green Kiss, pour essayer de faire parler de toutes les initiatives sustainable que je trouvais désirables. Parce que mon sujet, c'était ça. Je me disais, mais en fait,
comment réussir à lier les deux, quoi.
Ouais. Mais parce qu'à l'époque, alors encore pire qu'aujourd'hui, on était vraiment dans un monde où c'était le pays du chanvre, des tuberies, genre au bout du rouleau, quoi. Et donc, je me dis, mais non, mais il y a des trucs géniaux qui se passent, il faut les mettre en avant. Chez Colette, j'avais monté une expo par rapport à ça. Enfin, j'en avais parlé avec Sarah. J'avais fait une ligne de t-shirt avec un copain en éco, recyclé. Enfin, bon, bref. Et donc, j'ouvrais, en fait, des espaces nouveaux. Et donc, il y a eu un moment donné, j'ai dit, non, mais il faut, en fait, j'ai besoin de prendre la parole tout seul. Donc, avec un changement de vie personnelle, et puis d'un seul coup, ce truc où je me dis, j'ai besoin de dire moi. Donc, je pars et je monte mon agence qui finalement n'est pas une agence, c'est moi en fait qui suis devenue consultante. Au début, je voulais faire un peu attachée de presse en même temps, mais j'ai en fait très vite arrêté et je suis devenue vraiment ce 360 créatif de com, tu vois, que je raconte avant chez Colette. Et en fait, les marques sont venues me chercher pour ça, et de Reebok en passant par Burberry, Cartier et surtout Hermès qui a été mon grand client pendant 5 à 6 ans. Et du coup, voilà, et cette possibilité d'être dans du storytelling d'événements, digital, pop-up store, collaboration. J'ai développé la Yellow Boot pour Timberland en mon nom signé, une capsule de bijoux pour la marque J'aime. Enfin, donc ce truc un peu vraiment à 360, quoi.
Mmh. De prendre la parole en ton nom, quoi.
En mon nom, en consulting. Donc, en fait, j'ai toujours fait, d'un seul coup, quand je suis devenue indépendante, j'ai vraiment eu ce rôle de consultante, de murmurer à l'oreille des marques sur des sujets à 360 de communication. Parfois, c'était que de l'écriture, hein, un ton de parole, etc. Et puis, en fait, toujours réserver de l'espace, mais de façon encore une fois spontanée, pour des projets perso. Parce que tout le temps, j'ai eu des trucs d'un seul coup qu'une marque pour laquelle je bossais ne pouvait pas monter, mais que moi, je me disais, oh, j'ai envie de monter un événement à Paris où on va se retrouver tous le week-end. Bon, bref, donc c'est devenu Brunch Bazar à l'époque. Mais j'étais vraiment, alors en plus, j'étais enceinte et j'étais là, je veux pas faire partie des mamans avec que des mamans. Je veux fabriquer un événement où on se retrouve tous. Et donc, avec les valeurs du troc, de la sustainability, etc. Et donc, j'ai monté le Brunch Bazar qui était devenu un événement d'un week-end que j'ai tenu pendant quelques années, un gros truc, quoi, qui s'est fini même au Palais de Tokyo avec 10 000 personnes et tout ça, où vraiment c'était l'idée du pop-up store éphémère, du restaurant éphémère, des ateliers pour les enfants gratuits, pour les adultes, enfin, bon, truc énorme avec un business model foireux, hein, donc j'ai perdu de l'argent, tout ça. Ah oui, je suis pas non plus un génie pour
récupérer. Mais tu t'es éclaté.
ouais, mais pareil, enfin tu vois, alors après, en plus aujourd'hui, enfin depuis 12 ans, je suis mariée avec quelqu'un qui est un entrepreneur aussi, qui du coup m'accompagne dans cette folie-là, parce que on est des preneurs de risques, lui encore plus que moi et tout ça, mais si tu veux, tu vois, Brunch Bazar, j'ai eu l'idée de ce truc, je me dis, je peux pas le faire toute seule, enfin, option A, je développe un deck, je vais voir des marques, je trouve des sponsors. Bon, ça va me prendre 2-3 ans parce que on est en France et que les choses vont très lentement. Option B, je trouve des partenaires en fait de jeu qui sont en fait des gens à Paris que je connais, qui vont être bons dans des domaines dont j'ai besoin, c'est-à-dire la fille qui va être bonne dans le côté enfant parce que je voulais monter des ateliers, quelqu'un qui va être plus sur la mode parce que je voulais monter des stands de revente second hand, etc. Un petit resto qui venait de se monter organique, bon bref. Et donc, je trouve des partenaires qui auront besoin de moi parce que je vais monter un événement qui va créer de la communication pour diffuser de l'info sur leurs propres histoires à eux et qui vont du coup s'embarquer en étant micro-entrepreneur dans mon entreprise, tu vois. Et donc, c'est comme ça que j'ai monté Brunch Bazar. J'ai monté un pool, une team, en fait, une sorte d'équipe qui s'est investie au début, tu vois, corps et âme, en fait, avec moi dans le projet. Moi, j'ai investi sur la prod, sur les lieux que je louais, etc. Et le truc, il est parti, mais le premier événement qu'on a fait, il était full, quoi. Et parce que je pense que ça correspondait pile à un moment donné, les gens avaient envie d'un truc comme ça à Paris.
À l'air du temps, quoi.
Ouais. Et mais bon, j'avais pas le business model, hein. C'est-à-dire qu'en gros, premier rendez-vous, tout est gratos. Après, je me dis, bon, on va faire payer l'entrée 2 €. Après, donc, au fil du temps, on a monté le truc. Je devais trouver des sponsors, des marques, etc. Et on a eu un palais de Tokyo avec 10 000 personnes, c'était fou, etc. Et le dernier, en fait, que j'ai monté au Carreau du Temple, grosse plantade, parce qu'on s'était pas fait, on n'a pas fait gaffe, on l'a monté pendant un week-end, je crois, de Pentecôte, enfin, je sais pas trop quoi, il n'y avait plus personne à Paris. Et financièrement, ça a été la cata, et là, j'ai fait, ouais, stop. Et alors, ça m'a, pour la première fois, en fait, j'ai raté d'être pitbull, j'ai pris conscience qu'il y a des moments où il faut savoir lâcher. En fait, ouais. Tu vois, à un moment donné, tu te dis, non, mais c'est bon, je vais user ma vie, mon énergie, et mon compte en banque. Je suis pas en train de sauver la planète, là, on va s'arrêter. Et bon, du hasard a eu son temps. Maintenant, faut passer à autre chose, parce que même créativement, de toute façon, j'avais envie d'autre chose. J'étais devenue, grande organisatrice de stands.
Ouais, tu faisais des événements énormes.
Ouais. Mmh. Et donc, voilà. Donc, ça s'est arrêté.
J'ai une question. Alors, je sais pas si elle est philosophique, mais ça m'intéresse vraiment. C'est, tu sais, il y a ces personnes qui sont toujours au vent de la bouée, comme disent les marins, c'est-à-dire qui sont toujours précurseurs, et puis il y a l'air du temps. Toi, j'ai plutôt l'impression que tu es plutôt précurseur. Et en fait, le truc, c'est que parfois, quand on est trop précurseur, ben, malheureusement, on loupe l'air du temps. Il arrive un peu plus tard. Tu vois, c'est peut-être ce que tu disais avec ton blog. Ben, finalement, tu étais tellement en avance qu'à l'époque, tu n'avais peut-être pas l'audience qui allait parce que les gens n'étaient pas prêts encore. Le monde n'était pas prêt, d'une certaine manière. Et je voulais savoir si tu as une réflexion, un conseil là-dessus pour les personnes qui sont comme toi. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais qui sont plutôt à l'avant des tendances. Comment est-ce que tu sais quel est le bon moment?
Ben, je le sais pas. En fait, comme je rationalise pas à ce moment-là. En fait, j'écoute ce qui se passe dans mon ventre, l'envie que j'ai, et je m'interroge pas à savoir si c'est le bon moment. Donc, il y a des choses effectivement.
Et quand ça marche, c'est que c'est le bon moment, et quand ça ne marche pas, c'est que c'est trop tôt.
Ouais. Mais je regrette pas, par contre. En fait, tu vois, je pense que ce que j'ai aussi un peu peut-être compris ou accepté, c'est que tout ce que je fais, même si d'ailleurs c'est un échec financier, même si c'est ça a pas la répercussion et que je voulais que ça ait, déjà c'est une expérience folle pour moi, et c'est en fait tout ça contribue à fabriquer qui je suis, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense soit des marques, soit des gens viennent me parler parce qu'il y a eu toute cette histoire avant, et je pense quand même que pas mal des projets, s'ils n'ont pas été des grands succès commerciaux, financiers, sont été quand même des... On fait un peu parler d'eux, tu vois, et on raisonnait en fait à ce moment-là culturellement, ou alors, je sais pas, en tout cas, encore une fois, dans mes rendez-vous avec des clients, avec des marques, pendant longtemps, on m'a parlé de Brunch Bazaar, on m'a parlé de 20, ou de, parce que ça a résonné à un moment donné. Donc je me dis que finalement, en tout cas, quand on fait des choses, en fait, l'objectif final, évidemment, c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une convergence parce qu'il faut en vivre. Donc, il faut qu'il y ait, à un moment donné, un projet qui se transforme en succès, mais financier. Mais tout ça, en tout cas, ça écrit ton histoire de marque. Ah, ça écrit mon histoire de marque à moi, Nadège Winter, peut-être, tu vois. Et donc, il n'y a pas de regret du tout. Puis finalement, je me dis, voilà, c'est dommage que j'ai eu un temps d'avance, mais finalement, c'est peut-être intéressant de savoir que je peux avoir des temps d'avance, tu vois. Et puis en plus, je pense qu'aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite, donc on est presque toujours un peu finalement en retard, quoi. Donc, ouais. Non, en fait, je crois que ce qui peut me frustrer des fois le plus, c'est d'avoir une idée, un truc, et puis pas avoir réussi à le monter assez vite, et d'un seul coup, il y en a un autre
qui est plus rapide.
Alors là, voilà.
J'ai encore une dernière question sur ce sujet, puis après on passera au crible du gratin. C'est assez bêtement, mais du coup, c'est quoi tes kiffs du moment? C'est quoi tes envies du moment? C'est quoi justement les tendances que tu regardes en ce moment?
Alors déjà concrètement, je suis plus chez Calvin Klein.
Ah. Donc, je savais pas, tu vois, j'apprends quelque chose.
Ouais, j'ai fait un an. Alors bon, le Covid, la Covid n'a pas facilité les choses. Ouais. Et donc, c'est une sorte de départ, on va dire, mutuel de séparation.
Dans bah, bosser à distance dans un nouveau pays, nanana, ça doit pas être évident, quoi.
Ouais, en fait, bon, en plus, tu sais, c'est des maisons, en fait, américaines, iconiques, qui sont finalement, quand tu arrives aux États-Unis, c'est du business de masse, en fait, tu vois. Enfin, moi, j'avais naïvement aussi quand même ce regard sur une marque qui, en plus, avait fait rentrer à l'époque Raf Simons, etc. Et en fait, du coup, à ce moment-là, finalement, tu rentres dedans et la matrice est plus la même. En fait, c'est un gros projet commercial. Bon, bref, donc ça résonnait plus. Et avec la Covid, ça a été encore pire. Et donc, du coup, séparation. Et je suis repartie au consulting, là, de New York, tout en gardant un peu le regard sur ce qui se passe quand même. Et je suis appelée régulièrement, donc on verra ce qui se passe. Mais je fais du consulting et je pense que j'adore, en fait, aujourd'hui, les possibilités qu'il y a de réécriture de nos industries. Et je pense que c'est hyper intéressant, tu vois. Et donc, aujourd'hui, en tout cas, j'ai pas d'idée vraiment précise. Je pense que je vais dire ce que tout le monde dit aujourd'hui, en fait, tu vois. On est dans des vrais sujets de curation, dans des vrais sujets de communauté du local. La sustainability, c'est un point, mais c'est surtout, en fait, ça coûte... réfléchir à des projets où le point de vue, le choix, la curation vont être déterminants.
On revient finalement un peu à de l'artistique, quoi.
Ouais, de l'artistique et des vrais choix. En fait, je pense que les marques, il y a vraiment cette transformation du global au local et d'offrir aux consommateurs vraiment ce qui était une réalité, une tendance, mais qui est encore plus déterminante. Quelque chose qui dépasse la fonction de produit et donc ce storytelling sur en fait offrir des histoires qui se consomment autrement que dans de l'achat. Donc mais c'est une banalité de dire ça, tu vois, ça existe depuis toujours, mais je pense que là il y a des vrais sujets d'expérientiel qu'il va falloir inventer, réinventer. Voilà, et puis tous les formats de vente en fait online, tout ce qui peut se développer avec les réseaux sociaux, les formats nouveaux, enfin voilà, c'est il y a vachement de choses hyper intéressantes à craquer, mais c'est vrai que là d'un seul coup il y a une sorte de, c'est très bruyant, il y a beaucoup de choses, et donc c'est effectivement essayer de faire du nettoyage pour faire émerger ce qu'on appelle l'authenticité, enfin je sais pas, une vérité, quelque chose de plus précieux que ça. Donc c'est un peu compliqué, mais mais je trouve ça hyper intéressant là, en ce moment.
Bah écoute Nadège, si tu l'acceptes, du coup je mettrai tes contacts dans les liens du podcast, comme ça si jamais les personnes qui nous écoutent, il y a pas mal quand même de dirigeants d'entreprise, de marketeurs, beaucoup de gens qui bossent dans des grosses boîtes hein, qui écoutent Le Gratin, donc peut-être que ils voudront faire appel à tes services, même si ma communauté à New York est encore naissante.
Je travaille avec une grande marque de luxe de Paris.
Pour terminer, j'aime bien poser quelques questions, tu sais, un peu perso. Il y en a une que j'aime bien parce que je trouve qu'elle elle apporte toujours beaucoup. C'est, est-ce que tu as vécu un échec qui est un peu ton échec préféré, si tu veux? L'échec qui t'a le plus appris? Un moment difficile, hein, si c'est pas forcément un échec, mais une période dont tu pourrais me parler et surtout ce que tu en as tiré comme enseignement?
Alors évidemment, je veux dire, comme tout le monde, j'en ai eu plein, mais j'ai jamais vraiment, c'est étrange, je n'ai jamais vraiment eu la sensation que c'était des échecs. Tu vois, je pense que j'ai des moments de doute, là même le fait, tu vois, d'avoir quitté Calvin Klein au bout d'un an, même si c'est au fond de moi, très sincèrement, j'ai d'un seul coup senti que j'étais malheureuse et qu'il fallait que ça s'arrête et que je préférais prendre le risque d'être dans une situation d'indépendance, même dans ce contexte aujourd'hui de crise. Mais il y a quand même un petit bout de moi qui est genre, j'ai pas fait le temps que je voulais faire, quoi, tu vois. Et donc, je pars à New York et puis finalement, il se passe pas exactement ce que je voudrais qu'il se passe. Mais en fait, tout ce que je vis qui peut ressembler à un échec, je le vis comme une sorte d'épreuve ou de petit bout de chemin qui me fait grandir. C'est une expérience nouvelle, quoi. Donc, il y a quand même ce coup-là à New York qui est un peu dur, aussi, tu vois, là. Mais en même temps, encore une, c'est comme tous les, tu vois, les coups durs, entre guillemets, un divorce, un projet qui s'arrête. Enfin bon. Déjà, je suis hyper fataliste. Je me dis, les choses n'arrivent pas par hasard. Je pense que, par exemple, New York, c'est l'opportunité, mais vraiment déjà une chance de folie. Ça fait quelques mois que je passe beaucoup de temps à lire, à écouter les podcasts, etc., à me nourrir de plein de choses, à renouer du coup des contacts et là de collaborer avec une très belle marque en France. Et du coup, oui, en fait, tous ces moments de pause ou de changement, pour moi, c'est juste des moments qui sont des moments restructurants. Et je pense qu'effectivement, il y a une phrase d'ailleurs que j'ai retenue il n'y a pas très longtemps, je vais faire un peu même philo, mais c'est Socrate qui disait, je crois, que la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est en fait de rester là où on est tombé. Et c'est, tu vois, c'est ça, c'est vraiment cette idée de dire que, en fait, il faut être dans le mouvement et qu'en fait, ce que j'ai dit, je crois, au tout début, c'est que l'audace ou oser, malgré les peurs qui nous tiraillent le bide, en fait, c'est ça qui te fait avancer. Et donc, il y a pas d'échec à partir du moment où tu te relèves, tu sais, et tu peux, tu as cette capacité et tu vraiment, au fond de toi, tu vas chercher quelque chose qui te dit non, mais tout ça a du sens et en fait, ça me permet d'avancer, de grandir encore et d'aller chercher la lumière un peu ailleurs, quoi. Donc, voilà.
Tu vois, j'avais une question qui est, est-ce qu'il y a une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais partager avec nous ? Là, déjà, celle que tu m'as citée, elle est vraiment hyper intéressante, quoi. Une autre question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans ta vie, ta carrière, ta vie perso, ce que tu veux, qu'est-ce que tu referais différemment ?
Alors, dans l'écriture, dans le chemin, je crois que... Finalement, tu vois, je suis hyper satisfaite, hyper heureuse, effectivement, hyper fière de tous les chemins que j'ai croisés, de tout ce que j'ai construit. Après, alors, est-ce que j'aurais voulu peut-être, je sais pas, être plus, mais ça, je pense que c'est impossible, mais être plus sûre de moi à 15, 17 ans et partir plus vite dans le monde créatif. Enfin, tu vois, et parce que j'ai toujours cette frustration de me dire, non, mais au fond de moi, voilà, je voudrais écrire, je voudrais... veut être une artiste.
Il est encore temps, Nadège.
Oui, mais oui.
Du Covid.
Mais oui, c'est ça. Alors là, il y a une sorte de petite résistance. Je ne sais pas, il va falloir que je reparle avec moi-même, mais... Et après... Alors non, après, dans ce monde d'ultra-marketing de soi, des fois, je me dis, oh, j'ai jamais vraiment joué la carte de l'auto-marketing, de, tu sais, me mettre... De, voilà, me mettre en avant.
Ouais, c'est, il est presque... en fait, arriver par défaut, c'est pas le bon mot, mais tu vois, c'est-à-dire
organique,
toi, quoi, de manière complètement ouais. Organique. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire que
ouais. Et tu vois, et dans ce monde où tu sautes en l'air et là, tu deviens déjà une influenceuse à 3 millions de vues. Enfin, je me dis bon, peut-être que j'aurais dû, peut-être que tu vois, mais c'est pour nourrir un ego et puis peut-être générer plus de business, mais en même temps peut-être que ça va arriver parce que je crois que j'ai aussi envie de raconter des choses
et que
j'ai un point de vue et que du coup qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais du coup tu vois là en ce moment ça me titille, je me dis tiens, aller découvrir les nouveaux talents, profiter d'être ici, tu vois, de faire peut-être développer une capsule vidéo, enfin faire quelque chose, raconter l'expérience d'ici en fait,
c'est
de
clair.
New York en tant que française, ce qui se passe, et de trouver un format pour le dire. Alors c'est pas pour me mettre en avant, c'est peut-être plus pour raconter.
Ouais, raconter quelque chose, une histoire.
Ouais, et l'espoir aussi, tu vois. Donc là en fait, moi je suis toujours dans ce truc de en ce moment, tu vois, d'essayer de développer des projets sur la révélation des talents, les gens qui vont faire demain, parce que je pense qu'en fait, il faut être tout le temps habité par cette lumière là en fait, et que c'est pour ça que je dis qu'en fait en période de crise aujourd'hui, faut garder l'espoir, parce que comme à chaque fois ça s'est écrit dans l'histoire, il y a un renouvellement qui va se faire, c'est certain, et c'est nourri par des gens, par l'énergie en fait, nos énergies, et il faut pas lâcher quoi, mais c'est pas pour autant que il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres.
C'est clair. Et ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui t'ont particulièrement marqué et surtout que t'aimerais recommander autour de toi, parce que ils ont été des livres un peu fondamentaux, tu vois, pour toi, dans ta vie, dans ta carrière?
Alors, en réfléchissant, je me dis qu'il y a un livre qui est un peu une sorte de livre qui est plutôt, on va dire, pour les gens éveiller la créativité ou enfin en tout cas qui est une sorte de petite bible rigolote, c'est les sacrés conseils de George Lois, qui est en fait un directeur artistique et un qui est toujours vivant d'ailleurs, mais il doit avoir 85 ans, qui a été le directeur artistique de Esquire magazine.
Ah oui.
Tu vois, et tu te rappelles, je sais pas, c'est mythique des couves avec Marilyn Monroe.
Ouais.
Tu sais, voilà. Bon, et il a fait donc un petit bouquin qui sont les, je sais plus, 50 bons conseils pour être un bon créatif, mais avec beaucoup d'humour, etc. Donc, c'est le genre de petit bouquin que j'aime bien parce qu'il y a toujours des citations qui tiennent en éveil. Après, dans des bouquins, parce que je pensais à des bouquins plus de construction, enfin de soi, etc. Et toujours sur ces notions de créativité, où la puiser, etc. Et en fait, il y a une femme que j'adore qui est Elizabeth Gilbert. Donc, c'est évidemment Mange, Prie, Aime.
Ouais, en français.
Mais bon, il y a, voilà. Y a...
Eat, Pray, Love.
Exactement. Et il y a l'autre livre qu'elle a écrit, je crois, il n'y a pas très longtemps, Big Magic, et où elle décrypte vraiment, en fait, l'instinct créatif et le dépassement de ses peurs, etc. Dans le même type de bouquin, en fait, aussi, qui te permet de comprendre que finalement, c'est pas forcément, tout s'arrête pas à tes capacités, mais en fait, tout dépend aussi de ton mindset. Bah, c'est le mindset de Carol Dweck qui fait la différence entre le fixed mindset et le growth mindset. Et ça, c'est super intéressant, je trouve aussi, sur la capacité, en fait, selon la façon dont tu regardes le monde et ce qui t'arrive, d'être plutôt dans le grandissement, l'évolution, le changement, plutôt que d'être figé et contraint par les lois en fait extérieures, etc. Et après, s'il y a un livre d'auteur, c'est parce que je regardais notamment un documentaire sur elle il y a pas très longtemps sur Netflix, c'est John Didion, L'année de la pensée magique.
Ah, ça je connais pas.
Qui est un auteur américaine fabuleuse et donc qui est un livre qu'elle a écrit à la mort de son mari, de sa fille. Qui ont eu lieu carrément la même année. Et en fait, je pense que c'est un des bouquins sur... alors, ça se couche, bascule dans un autre sujet, hein, mais sur le deuil, sur... mais l'apprentissage de la vie, finalement, et la capacité à, tu vois, à avancer, et qui est un livre assez fabuleux. Alors, peut-être pour finir aussi, parce que je suis aux États-Unis, je voulais quand même parler d'un bouquin sur l'Amérique. C'est un auteur, mais que tu connais, toi, évidemment, je m'imagine très bien, Jim Harrison.
Écoute...
C'est le livre de d'Alva en fait qui est un bouquin qu'il a écrit l'Amérique et tu sais les grandes terres des Indiens.
Ah, oui,
etc.
Oui.
Voilà, enfin c'est toutes ces épopées là et c'est d'accord. Super. Voilà, c'est
Ah bah tu vois, tu détrompes-toi, alors là tu m'apprends complètement. Je connaissais pas John Didion et Jim Harrison, tu vois. Donc j'adore quand je pose cette question de découvrir de nouveaux livres. Donc là tu as fait ma journée.
Cool.
Ça me fait trop plaisir. Nadège, merci pour ton temps. Merci de t'être levée tôt pour moi. C'est absolument adorable. Si on veut te retrouver, même si je sais que pour l'instant, tu n'as pas encore décidé de franchir le cap de l'auto-promo, mais néanmoins, si on veut te retrouver, si on veut te contacter, si on veut te poser des questions ou juste te suivre, est-ce qu'il y a un endroit que tu nous recommandes pour le faire ?
Instagram, LinkedIn.
Instagram, LinkedIn, tout simplement. Je mettrai tous les liens, du coup, dans les notes de l'épisode. Nadège, je voulais te remercier. C'était vraiment un très beau moment. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, j'ai une pile maintenant de lectures comme ça, tu vois, pour continuer la semaine.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Et voilà, fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. D'abord, si vous cherchez les notes de l'épisode avec toutes les références, bah c'est simple, allez directement sur le blog du podcast. Donc c'est www.le-du-6-gratin.fr. Vous trouverez normalement toutes les infos dessus. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser d'autres questions, que je mettrai d'ailleurs peut-être un jour sur le podcast, ou me proposer de nouveaux invités, ou juste me faire un feedback, me proposer un livre, peu importe à la rigueur, et bien surtout, n'hésitez pas à le faire. J'aime bien répondre. J'essaye d'être assez active sur les réseaux sociaux, et en particulier sur LinkedIn et sur Instagram, qui sont mes deux réseaux sociaux de prédilection, donc sous le pseudo Pauline Legno, tout attaché, c'est très simple. Dernière chose, un truc qui compte énormément pour moi, et je sais que c'est pénible à faire, mais vraiment ça compte, c'est si vous me laissez une note 5 étoiles, ou que vous parlez du podcast autour de vous, ou que vous mettez un avis. Et la note 5 étoiles, c'est en particulier sur Apple Podcast, sur iTunes. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a le plus d'écoute, et avoir des notes, en fait, permet de donner plus de visibilité au podcast. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Et si on est si nombreux aujourd'hui à écouter Le Gratin, à faire partie de cette communauté, bah c'est grâce à vous et justement à toutes ces personnes. C'est plus de 3000, 4000 personnes qui ont à chaque fois pris le temps de mettre des notes. Donc ça m'aide beaucoup et merci à eux. Comme à chaque fois, vraiment un grand, grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu et je vous dis à très bientôt.